Chapitre 3, le mendiant. Ce fut bien pis lorsqu'on sortit des sables pour descendre dans les terres grasses et fortes de la vallée noire. Aux lisières de ce plateau stérile, Madame de Blanchemont avait admiré l'immense et admirable paysage qui se déroulait sous ses pieds pour se relever jusqu'aux cieux en plusieurs zones d'horizon, boisé d'un violet pâle, coupé de bandes d'or par les rayons du couchant. Il n'est guère de plus beaux sites en France. La végétation, vue en détail, n'y est pourtant pas d'une grande vigueur. Aucun grand fleuve ne sillonne ses campagnes, où le soleil ne se mire dans aucun toit d'ardoise. Point de montagne pittoresque, rien de frappant, rien d'extraordinaire dans cette nature paisible. Mais un développement grandiose de terres cultivées, un morcellement infini de champs, de prairies, de taillis et de larges chemins communaux, offrant la variété des formes et des nuances, dans une harmonie générale de verdure sombre tirant sur le bleu. Un pêle-mêle de clôtures plantureuses, de chaumines cachées sous les vergers, de rideaux de peupliers, de pacages touffus dans les profondeurs, des champs plus pâles et des haies plus claires sur les plateaux, faisant ressortir les masses voisines, enfin un accord et un ensemble remarquable, sur une étendue de 50 lieues carrées, que du haut des Churmières de Labreuil ou de Corlay, on embrasse d'un seul regard. Mais notre voyageuse eut bientôt perdu de vue ce magnifique panorama. Une fois engagée dans les versants de la vallée noire, on change de spectacle. Descendant et gravissant tour à tour des chemins encaissés de buissons élevés, on ne côtoie point de précipices, mais ces chemins sont des précipices eux-mêmes. Le soleil, en s'abaissant derrière les arbres, leur donne une physionomie particulière, étrangement gracieuse et sauvage. Ce sont des fuyants mystérieux sous d'épais ombrages, des traînes d'un vert d'émeraude qui conduisent à des impasses ou à des mares stagnantes, des tournants rapides qu'on ne peut plus remonter quand on les a descendus en voiture, enfin un enchantement continuel pour l'imagination, avec des dangers très réels pour ceux qui vont à l'aventure essayer autrement qu'à pied et tout au plus à cheval ces détours séduisants, capricieux et perfides. Tant que le soleil fut sur l'horizon, l'automédon au crin roux se tira assez bien d'affaire. Il suivit le chemin le plus battu et par conséquent le plus rude, mais aussi le plus sûr. Il traversa deux ou trois ruisseaux en s'attachant aux traces de roues de charrette empreintes sur les rives. Mais quand le soleil fut couché, la nuit se fit vite dans ces chemins creux et le dernier paysan auquel on s'adressa répondit d'un air d'insouciance « Marchez, les marchés, vous n'avez plus qu'une petite lieue, le chemin est toujours bon. » Or, c'était le sixième paysan qui, depuis environ 2 heures, annonçait qu'on n'avait plus qu'une petite lieue à faire. Et ce chemin, toujours si bon, était tel que le cheval était exténué et les voyageurs au bout de leur patience. Marcel elle-même commençait à craindre de verser, car si le patachon et son bidet choisissaient en plein jour leur passage avec beaucoup d'adresse, il était impossible qu'en pleine nuit ils pussent éviter ces fausses voies que la coupure inégale des terrains rend aussi dangereuses que pittoresques et qui, en s'interrompant tout à coup, vous expose à un saut de 10 ou 12 pieds à pic. Le gamin n'avait jamais pénétré aussi avant dans la vallée noire. Il s'impatientait, jurait comme un possédé, chaque fois qu'il était forcé de retourner sur ses pas pour reprendre la voie. Il se plaignait de la soif, de la faim, se lamentait sur la fatigue de son cheval, tout en le rouant de coups et se donnait des airs de citadin pour vouer à tous les diables ce pays sauvage et ses stupides habitants. Plus d'une fois, voyant le chemin rapide mais sec, Marcel et ses gens avaient mis pieds à terre. Mais on ne pouvait marcher 5 minutes sans arriver à un de ces fonds où le chemin se resserre et se trouve entièrement occupé par une source à fleur de terre, sans écoulement, et formant une mare liquide impossible à franchir à pied pour une femme délicate. La Parisienne Suzette aimait mieux verser, disait-elle, que de laisser sa chaussure dans ses bourbiers. Et la pierre, qui avait passé sa vie en escarpins sur des parquets bien luisants, était tellement gauche et démoralisée que Madame de Branchemont n'osait plus lui laisser porter son fils. La réponse ordinaire du paysan, quand on lui demande n'importe quel chemin, c'est de vous dire marchez tout droit, toujours tout droit. Mais c'est tout simplement une facétie, une espèce de calembour qui signifie qu'on doit marcher sur ses jambes, car il n'y a pas un seul chemin tout droit dans la vallée noire. Les nombreux ravins de l'Indre, de la Vauvre, de la Couarde, du Gourdon et de 100 autres moindres ruisseaux qui changent de nom dans leur cours et qui n'ont jamais été avilis sous le joug d'aucun pont ni chaussée, vous forcent à 1000 détours pour chercher un endroit guéable, de sorte que vous êtes souvent obligé de tourner le dos au lieu vers lequel vous vous dirigez. Arrivés à un carrefour surmonté d'une croix, endroit sinistre que l'imagination des paysans peuple toujours de démons, de sorciers et d'animaux fantastiques, nos voyageurs embarrassés s'adressèrent à un mendiant qui, assis sur la pierre des morts, leur criait d'une voix monotone: Homme charitable, ayez pitié d'un pauvre malheureux! La grande taille voûtée de cet homme très vieux, mais encore robuste, et armé d'un bâton énorme, avait un aspect peu rassurant dans le cas d'une attaque seul à seul. On ne distinguait pas bien ses traits sévères, mais il y avait dans l'inflexion de sa voix rauque quelque chose de plus impérieux que suppliant. Son attitude triste et ses haillons immondes contrastaient avec l'intention évidemment facétieuse qui lui faisait porter un vieux bouquet et un ruban fané à son chapeau. Mon ami, lui dit Marcel en lui donnant une pièce d'argent, indiquez-nous le chemin de Blanchemont, si vous le connaissez. Au lieu de lui répondre, le mendiant continua gravement à prononcer à haute voix un Ave Maria en latin qu'il avait entamé à son intention. Mais répondez donc, lui dit la pierre, vous marmotterez vos patelôtres après. Le mendiant tourna la tête vers le laquais d'un air de mépris et continua son oraison. Parlez pas à cet homme-là, dit le patachon. C'est un vieux gueux qui bat la campagne et qui sait jamais où il va. On le rencontre partout et nulle part on ne le trouve dans son bon sens. Ah, le chemin de Blanchemont, dit enfin le mendiant lorsqu'il eut achevé sa prière. Bon, n'y êtes pas, mes enfants. Faut retourner et prendre le premier qui descend à droite. En êtes-vous sûr? dit Marcel. Oh, j'y ai passé plus de 600 fois. Si vous ne me croyez pas, faites comme vous voudrez, ça m'est égal à moi. Il paraît sûr de son fait, dit Marcel à son conducteur, écoutons-le. Quel intérêt aurait-il à nous tromper? Bah, le plaisir de mal faire, répondit le patachon soucieux. Me méfie de cet homme-là. Marcel insista pour suivre l'avis du mendiant, et bientôt la patache s'enfonça dans une traîne étroite, tortueuse et singulièrement rapide. Mais je dis, reprit en jurant le patachon, dont le cheval trébuchait à chaque pas, je dis que ce vieux sournois nous égare. Avancez, dit Marcel, puisqu'il n'y a pas moyen de reculer. Plus on avançait, plus le chemin devenait quasi impossible. Mais il était trop étroit pour retourner la voiture. Deux haies splendides la serraient de près. Après avoir fait des miracles de force et de dévouement, le petit cheval arriva au bas, sous un massif de vieux chênes qui paraissait être la lisière d'un bois. Le chemin s'élargit tout à coup, et l'on se vit en face d'une grande flaque d'eau dormante qui ne ressemblait guère au gué d'une rivière. Le Patachon s'y engagea pourtant, mais au beau milieu, il enfonça tellement qu'il voulut tirer de côté. Et ce fut le dernier exploit de son maigre bucéphale. La patache pencha jusqu'au moyeu et l'animal s'abattit en brisant ses traits. Il fallut le dételer. La pierre se mit dans l'eau jusqu'au genou en gémissant comme un homme à l'agonie. Et quand il eut aidé le patachon à se tirer d'affaire, tous leurs efforts furent vains, où il n'était fort ni l'un ni l'autre, pour relever la voiture. Alors le patachon sauta lestement sur sa bête et pestant contre le sorcier de Mendian, jurant par tous les diables de l'enfer, il partit au grand trot, promettant d'aller chercher du secours, mais d'un ton qui faisait présager qu'il se reprocherait fort peu de laisser ses voyageurs dans le bourbier jusqu'au jour. La patache n'avait pas été culbutée. Nonchalamment penchée dans le marécage, elle était encore fort habitable, et Marcel s'arrangea sur la banquette du fond avec son fils étendu sur elle pour le faire dormir plus commodément, car il y avait longtemps qu'Édouard demandait son souper et son lit et quelques friandises mises en réserve dans la poche de Suzette, ayant apaisé sa faim, il ne se fit pas prier pour commencer son somme. Madame de Blanchemont, jugeant que le petit conducteur ne se presserait pas de revenir, dans le cas où il trouverait un bon gîte, engagea la pierre à aller voir aux environs s'il ne découvrirait pas quelqu'une de ces chaumières si bien tapies sous la feuillée, si bien fermées et silencieuses après le coucher du soleil, qu'il faut les toucher pour les voir et les prendre d'assaut pour y trouver l'hospitalité à cette heure indue. Le vieux Lapierre n'avait qu'un souci, c'était de trouver du feu pour se sécher les pieds et se garantir d'un rhumatisme. Il ne se vit donc pas prier pour sortir du marais, après s'être toutefois assuré que la patache appuyé sur le tronc renversé d'un vieux saule, ne risque pas de s'enfoncer davantage. La plus désolée était Suzette, qui avait grand-peur des voleurs, des loups et des serpents, trois fléaux inconnus dans la vallée noire, mais qui ne sauraient sortir de l'esprit d'une femme de chambre en voyage. Cependant, le sang-froid enjoué de sa maîtresse l'empêcha de se livrer tout haut à ses terreurs et, s'étant calée de son mieux sur la banquette de devant, elle prit le parti de pleurer en silence. « Eh bien, qu'avez-vous donc, Suzette ?» lui dit Marcel, lorsqu'elle s'en aperçut. « Hélas, madame, non, répondit-elle en sanglotant, n'entendez-vous pas chanter les grenouilles ? Elles vont venir sur nous et remplir la voiture. » « Et nous dévorer, sans doute, » reprit madame de Blanchemont en éclatant de rire. En effet, les vertes habitantes du marécage, un instant troublées par la chute du cheval et les clameurs du phaéton, avaient repris leur psalmodie monotone. On entendait aussi aboyer et hurler les chiens, mais si loin qu'il n'y avait guère lieu de compter sur une prompte assistance. La lune ne se levait pas encore, mais les étoiles brillaient dans l'eau stagnante du marécage qui avait repris sa limpidité. Une brise tiède soufflait dans les grands roseaux qui s'élevaient en touffes épaisses sur la rive. « Allons, Suzette, » dit Marcel, qui se livrait déjà à une rêverie poétique, « on n'est pas si mal que je l'aurais cru dans un bourbier. Et si vous le voulez bien, vous y dormirez comme dans votre lit. » « Il faut que madame ait perdu l'esprit, » pensa Suzette, « pour se trouver bien dans une pareille situation. »« Au ciel, madame !» s'écria-t-elle après un moment de silence. « Il me semble que j'entends hurler un loup. Est-ce que nous ne sommes pas au milieu d'une forêt ? » La forêt n'est, je crois, qu'une saulée, répondit Marcel. Et quant au loup qui hurle, mais c'est un homme qui chante. Oh, s'il se dirigeait de notre côté, il pourrait nous aider à gagner la terre ferme. Et si c'était un voleur? En ce cas, c'est un voleur bienveillant qui chante pour nous avertir de prendre garde à nous. Écoutez, Suzette, sans plaisanterie, il vient par ici. La voix se rapproche. En effet, une voix pleine et d'une mâle harmonie, quoique rude et sans art, planait sur les champs silencieux, accompagnée comme en mesure par le pas lent et régulier d'un cheval. Mais cette voix était encore éloignée, et rien n'assurait que le chanteur marchât dans la direction du marécage, qui pouvait bien n'être qu'une impasse. Quand la chanson fut finie, soit que le cheval marchât sur l'herbe, soit que le villageois se fût détourné, on n'entendit plus rien. En ce moment, Suzette, rendue à cette erreur, vit une ombre silencieuse qui se glissait le long du marécage et qui, reflétée dans l'eau, paraissait gigantesque. Elle laissa échapper un cri, et l'ombre, s'enfonçant dans le bourbier, vint droit vers la patache, quoique avec lenteur et précaution. N'ayez pas peur, Suzette, dit madame de Blanchemont, qui, en ce moment, n'était pas très rassurée elle-même. C'est notre vieux mendiant de tout à l'heure. Il nous indiquera peut-être une maison d'où l'on pourra venir vous porter secours. Mon ami, dit-elle avec beaucoup de plaisance d'esprit, mon domestique, qui est là, va aller auprès de vous pour que vous lui montriez le chemin d'une habitation quelconque. Ton domestique, ma petite? Répondit familièrement le mendiant. Il n'est pas là. Il est déjà loin. D'ailleurs, il est si vieux, si bête et si faible qu'il ne servirait de rien ici. Pour le coup, Marcel eut peur. Chapitre 4. Le marécage. Cette réponse ressemblait à la bravade farouche d'un homme qui a de mauvaises intentions. Marcel saisit Édouard dans ses bras, résolu à le défendre au prix de sa vie s'il le fallait. Et elle allait sauter dans l'eau du côté opposé à celui par lequel s'approchait le mendiant, lorsque la chanson rustique qui s'était fait déjà entendre reprit un second couplet, et cette fois à une distance très rapprochée. Le mendiant s'arrêta. Nous sommes perdus, murmura Suzette. Voilà le reste de la bande qui arrive. Mais nous sommes sauvés, au contraire, lui répondit Marcel. C'est la voix d'un brave paysan. En effet, cette voix était pleine de sécurité, et ce chant calme et pur annonçait la paix d'une bonne conscience. Le pas du cheval se rapprochait aussi. Évidemment, le villageois descendait le chemin qui conduisait au marécage. Le mendiant recula jusqu'au bord et resta immobile, paraissant montrer plus de prudence que de frayeur. Marcel se pencha alors en dehors de la patache pour appeler le passant, mais il chantait trop fort pour l'entendre, et si son cheval, effrayé à l'aspect de la masse noire que la patache présentait devant lui, ne se fût arrêté en soufflant avec force, le maître eût passé à côté sans y faire attention. Quel diable est cela? Cria enfin une voix de stentor qui n'exprimait qu'aucune crainte et que madame de Blanchemont reconnut aussitôt pour celle du grand farinier. Ohé, les amis, votre carrosse ne roule guère. Êtes-vous tous morts là-dedans que vous ne dites rien? Quand Suzette eut reconnu le meunier, dont la belle prestance l'avait déjà frappée agréablement le matin, malgré son peu de toilette, elle redevint fort gracieuse. Elle exposa le cas piteux où sa maîtresse et elle se trouvaient réduites, et le grand Louis, après avoir ri sans façon de leur mésaventure, assura que rien n'était plus facile que de les délivrer. Il alla d'abord se débarrasser d'un gros sac de blé qu'il portait sur son cheval, en travers devant lui, et apercevant le mendiant, qui ne paraissait pas songer à se cacher, « Ah, tiens, vous êtes donc là, père Canoche !» lui dit-il d'un ton bienveillant. « Rangez-vous, que je jette mon sac. »« Ben, j'étais là pour essayer d'aider à ces pauvres enfants, » répondit le mendiant. « Mais attendons, j'ai pas pu avancer. » « Restez tranquille, mon vieux, et ne vous bouillez pas inutilement. À votre âge, c'est dangereux. Je tirerai bien ces femmes de là sans vous. » Et il revint chercher Madame de Blanchemont en s'enfonçant dans la vase jusqu'au poitrail de sa bête. « Allons, madame, » dit-il gaiement, « avancez un peu sur le brancard et asseyez-vous derrière moi. Il n'y a rien de plus facile. » Vous ne vous mouillerez pas seulement le bout des pieds, car vous n'avez pas les jambes si longues que votre serviteur. Faut-il que votre patachon soit bête pour vous avoir fourré là-dedans, quand à deux pas sur la gauche, il n'y a pas 6 pouces de fange? Je suis désolé de vous faire prendre un si vilain bas de jambes, dit Marcel, mais mon enfant. Ah, le petit monsieur, c'est juste. Oh, lui d'abord, passez-le-moi. C'est cela. Le voilà devant moi. Soyez tranquille, la selle ne le blessera pas. Mon cheval n'en use guère, ni moi non plus. Allons, asseyez-vous derrière moi, ma petite dame, et n'ayez pas peur. La Sophie a les reins forts et les jambes sûres. Le meunier déposa doucement la mère et l'enfant sur le gazon. Et moi, criait Sucette, allez-vous me laisser là-dedans? « Non pas, mademoiselle, » dit le grand Louis, en retournant la chercher. « Donnez-moi aussi vos paquets, nous sentirons tout, soyez tranquille. » À présent, dit-il, quand il eut effectué le débarquement complet, « ce patachon de malheur viendra chercher sa carcasse de voiture quand il voudra. Je n'ai ni trait ni corde pour y atteler Sophie, mais je vais vous conduire où vous voudrez, mes petites dames. » « Sommes-nous bien loin de Blanchemont ?» demanda Marcel. « Bon, diable, oui. Votre patachon a pris un drôle de chemin pour vous y conduire. Il y a d'ici 2 lieues de pays, et quand nous y arriverons, tout le monde sera couché. Ce ne sera pas chose aisée que de nous faire ouvrir. Mais, si vous voulez, nous ne sommes qu'à 2 petites lieues de mon moulin d'argent au Gibault, et... Ça n'est pas riche, mais c'est propre, et ma mère est une bonne femme qui ne fera pas la grimace pour se relever, pour mettre des draps blancs dans les lits, et pour tendre le cou à 2 poulets. Ça vous va-t-il? On s'en façon. Allons, mesdames, à la guerre, comme à la guerre, au moulin comme au moulin. Demain matin, on aura ramassé et décroté la patache, qui ne s'enrhumera pas pour passer la nuit au frais, et on vous conduira à Blanchemont à l'heure que vous voudrez. Il y avait de la cordialité, même une sorte de délicatesse, dans la brusque invitation du meunier. Marcel, gagné par son bon cœur et par la mention qu'il avait faite de sa mère, accepta avec reconnaissance. « C'est bien, vous me faites plaisir, » dit le farinier. « Je ne vous connais pas, vous êtes peut-être la dame de Blanchemont, mais ça m'est égal. Quand vous seriez le diable, on dit que le diable se fait beau et joli quand il veut. » Je serai content de vous empêcher de passer une mauvaise nuit. Ben, ça, je ne peux pas laisser mon sac de blé. Je vais le charger sur son fil, petit s'asseoir dessus, la maman derrière. Ça vous gênera pas, au contraire, ça vous servira à vous appuyer. La demoiselle viendra à pied avec moi, en causant avec le père Canoche, qui n'est pas très bien mis, mais qui a beaucoup d'esprit. « Mais où a-t-il passé la nuit, ce vieux lézard ?» dit-il en cherchant des yeux le mendiant qui avait disparu. « Voilà, hé, père Canoche, venez vous coucher à la maison ?» Il ne répond pas. « Allons, c'est pas son idée pour ce soir. Eh bien, marchons, mesdames. »« Cet homme nous a beaucoup effrayés, » dit Marcel. « Vous le connaissez donc ?» Depuis que je suis au monde, C'est pas un méchant homme, et vous avez eu tort de le craindre. Mais il me semble pourtant qu'il nous a fait des menaces, et sa manière de tutoyer m'a paru peu amicale. Il vous a tutoyé, oh vieux farceur. Il n'est pas honteux, celui-là. Mais c'est sa manière d'être. N'y faites pas attention. C'est un homme sans malice, un original. C'est le père Cadoche, enfin, l'oncle à tout le monde, comme on l'appelle, et qui promet sa succession à tous les passants, quoi qu'il soit aussi gueux que son bâton. Marcel chemina fort commodément sur la robuste et pacifique Sophie. Le petit Édouard, qu'elle tenait bien serré devant elle, goûtait fort cette façon d'aller, comme dit le bon La Fontaine. Il talonnait de ses deux petits pieds l'encolure de la bête, qui ne le sentait pas, mais n'en allait pas plus vite. Elle marchait comme un vrai cheval de meunier, sans avoir besoin d'être guidée, connaissant son chemin par cœur, et se dirigeant dans l'obscurité, à travers l'eau et les pierres, sans jamais se tromper ni faire un faux pas. À la requête de Marcel, qui craignait pour son vieux serviteur une nuit passée à la belle étoile, le meunier fit retentir sa voix tonnante à plusieurs reprises, et la pierre, qui s'était égarée dans un taillis voisin et tournait depuis une demi-heure dans l'espace d'un arpent, vint bientôt rejoindre la petite caravane. Au bout d'une heure de marche, le bruit d'une écluse se fit entendre, et les premières blancheurs de la lune éclairèrent le toit couvert de pampres du moulin et les bords argentés de la rivière jonchés de menthe et de saponnerre. Marcel sauta légèrement sur ce tapis parfumé, après avoir remis dans les bras du meunier l'enfant, qui, tout joyeux et tout fier de son voyage équestre, lui jeta ses petits bras autour du cou en lui disant « Bonjour, Alochon !» Ainsi que le grand Louis l'avait annoncé, sa vieille mère se releva sans humeur, et avec l'aide d'une petite servante de 14 à 15 ans, les lits furent bientôt prêts. Madame de Blanchemont avait plus besoin de repos que de souper. Elle empêcha la vieille meunière de lui servir autre chose qu'une tasse de lait, et brisée de fatigue, elle s'endormit avec son enfant attaché à son flanc maternel dans un lit de plumes appelé couette, d'une hauteur démesurée et d'un moelleux recherché. Ces lits, dont tout le défaut est d'être trop chauds et trop doux, composent avec une paillasse rebondie tout le coucher des habitants aisés ou misérables d'un pays où les oies abondent et où les hivers sont très froids. Fatigué d'un long voyage de 80 lieues fait très rapidement, et surtout de la course en patache, qui en avait été pour ainsi dire le bouquet, la belle Parisienne eût volontiers dormi la grasse matinée. Mais à peine l'aube eut-elle paru, que le chant des coqs, le tic-tac du moulin, la grosse voix du meunier et tous les bruits du travail rustique la forcèrent de renoncer à un plus long repos. D'ailleurs, Édouard, qui n'était pas fatigué le moins du monde, et que l'air de la campagne stimulait déjà, commençait à gambader sur son lit. Malgré tout le tapage du dehors, Suzette, couchée dans la même chambre, dormait si profondément que Marcel se fit conscience de la réveiller. Commençant donc le jour de vie nouvelle qu'elle avait résolu d'embrasser, elle se leva et s'habilla, sans l'aide de sa femme de chambre, fit elle-même avec un plaisir extrême la toilette de son fils et sortit pour aller souhaiter le bonjour à ses hôtes. Elle ne trouva que le garçon de moulin et la petite servante qui lui dirent que le maître et la maîtresse venaient d'aller au bout du pré pour s'occuper du déjeuner. Curieuse de savoir en quoi consistaient ces préparatifs, Marcel franchit le pont rustique qui servait en même temps de pelle au réservoir du moulin, et laissant sur sa droite une belle plantation de jeunes peupliers, Elle traversa la prairie en longeant le cours de la rivière, ou plutôt du ruisseau, qui, toujours plein jusqu'au bord et rasant l'herbe fleurie, naguère en cet endroit plus de 10 pieds de large. Ce mince cours d'eau est pourtant d'une grande force, et aux abords du moulin, il forme un bassin assez considérable, immobile, profond et uni comme une glace, où se reflètent les vieux saules et les toits moussus de l'habitation. Marcel contempla ce site paisible et charmant, qui parlait à son cœur sans qu'elle sût pourquoi. Elle en avait vu de plus beau, mais il est des lieux qui nous disposent à je ne sais quel attendrissement invincible, et où il semble que la destinée nous attire pour nous y faire accepter des joies, des tristesses ou des devoirs. Chapitre 5. Le moulin. Quand Marcel pénétra dans les vastes bosquets où elle comptait trouver ses hôtes, elle crut entrer dans une forêt vierge. C'était une suite de terrains minés et bouleversés par les eaux, couverts de la plus épaisse végétation. On voyait que la petite rivière faisait là de grands ravages à la saison des pluies. Des zones, des hêtres et des trembles magnifiques, à demi renversés et laissant à découvert leurs énormes racines sur le sable humide, semblables à des serpents et à des hydres entrelacés, se penchaient les uns sur les autres dans un orgueilleux désordre. La rivière, divisée en nombreux filets, découpait, suivant son caprice, plusieurs enceintes de verdure où, sur un gazon couvert de rosée, s'entrecroisaient des festons de roses vigoureuses et cent variétés d'herbes sauvages hautes comme des buissons et abandonnées à la grâce incomparable de leur libre croissance. Jamais jardin anglais ne pourrait imiter ce luxe de la nature, ces masses si heureusement groupées, ces bassins nombreux que la rivière s'est creusés elle-même dans le sable et dans les fleurs, ces berceaux qui se rejoignent sur les courants, ces accidents heureux du terrain, ces digues rompues, ces pieux épars que la mousse dévore et qui semblent avoir été jetés là pour compléter la beauté du décor. Marcel resta plongé dans une sorte de ravissement et, sans le petit Édouard qui courait comme un faon échappé, avide d'imprimer le premier la trace de ses pieds mignons sur les sables fraîchement déposés au rivage, elle se fit oublier longtemps. Mais la crainte de le voir tomber dans l'eau réveilla sa sollicitude. Et, s'attachant à ses pas, courant après lui et s'enfonçant de plus en plus dans ce désert enchanté, elle croyait faire de ses rêves où la nature nous apparaît si complète dans sa beauté qu'on peut dire avoir vu, parfois en songe, le paradis terrestre. Enfin, le meunier et sa mère se montrèrent sur l'autre rive, l'un jetant l'épervier et pêchant des truites, l'autre trayant sa vache. « Ah, ma petite dame, déjà levée ?» dit le farinier. « Vous voyez, nous nous occupons de vous. » Voilà la vieille mère qui se tourmente d'avoir rien de bon à vous servir. Mais moi, je dis que vous vous contenterez de notre bon cœur. Nous ne sommes ni cuisiniers ni aubergistes, mais quand on a bon appétit d'un côté et bonne volonté de l'autre. Oh, vous me traitez 100 fois trop bien, mes braves gens, répondit Marcel en se hasardant sur la planche qui servait de pont, avec Édouard dans ses bras, pour aller les rejoindre. Jamais je n'ai passé une si bonne nuit. Jamais je n'ai vu une aussi belle matinée que chez vous. Oh, les belles truites que vous prenez là, monsieur le meunier. Et vous, la mer, le beau lait blanc et crémeux. Oh, vous me gâtez, et je ne sais comment vous remercier. Nous sommes assez remerciés, si vous êtes contente, dit la vieille en souriant. Nous voyons jamais du si beau monde que vous, et nous ne connaissons pas beaucoup les compliments. Mais nous voyons bien que vous êtes une personne honnête et sans exigence. Allons, venez à la maison, la galette sera bientôt cuite. Et le petit doit aimer les fraises. Nous avons un bout de jardin où il s'amusera à les cueillir lui-même. Vous êtes si bon et votre pays est si beau que je voudrais passer ma vie ici, dit Marcel avec abandon. Vrai, dit le meunier en souriant avec bonhomie. Si le cœur vous en dit. Vous voyez bien, mère, que notre pays n'est pas si laid que vous croyez. Quand je vous dis, moi, qu'une personne riche pourrait s'y trouver bien. Oui, dit la meunière, à condition d'y bâtir un château, et encore ce serait un château bien mal placé. Est-il possible que vous vous déplaisiez ici ? Reprit Marcel étonné. Oh, moi, non, je ne m'y déplais pas, répondit la vieille. J'y ai passé ma vie et j'y mourrai, s'il plaît à Dieu. J'ai eu le temps de m'y habituer depuis 75 ans que j'y règne. Et d'ailleurs, on est bien forcé de se contenter du pays qu'on a. Mais vous, madame, si vous fallait passer l'hiver ici, vous diriez pas que le pays est beau. Quand les grandes eaux couvrent tout l'Auprè et que nous ne pouvons plus même sortir de notre cour, non, 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 c'est pas joli. Bon, les femmes s'effraient toujours, dit le grand Louis. Vous savez bien que les eaux n'emporteront pas la maison et que le moulin est bien garanti. Et puis, quand le mauvais temps vient, faut bien le prendre comme il est. Tout l'hiver, vous demandez l'été, mère, et tant que dure l'été, vous ne songez qu'à vous inquiéter de l'hiver qui viendra. Moi, je vous dis qu'on pourrait vivre ici heureux et sans souci.
Et pourquoi donc ne fais-tu pas comme tu dis ? Reprit la mère. Es-tu sans souci, toi ? Te trouves-tu heureux d'être meunier et d'avoir ta maison dans l'eau si souvent ? Oh, si je répétais tout ce que tu dis quelquefois sur le malheur de ne pas être bien logé et de ne pouvoir pas faire fortune.
C'est très inutile de répéter toutes les bêtises que je dis quelquefois, mère. Vous pouvez bien vous en épargner la peine. Et en parlant ainsi d'un ton de reproche, le grand meunier regardait sa mère avec une douceur affectueuse et presque suppliante. Leur entretien ne paraissait pas aussi banal à Madame de Blanchemont qu'il peut jusqu'ici le paraître au lecteur. Dans la situation de son esprit, elle désirait savoir comment cette vie rustique, la moins dure encore pour les gens pauvres, était sentie et appréciée par ceux-là même qui étaient forcés de la mener. Elle ne venait pas l'examiner et l'essayer avec des idées trop romanesques. Henri, en doutant de son aptitude à l'embrasser, lui en avait bien fait sentir les privations et les souffrances réelles. Mais elle pensait que ces souffrances n'étaient pas au-dessus de son courage, et ce qui l'intéressait dans l'opinion de ses hôtes du moulin, c'était le degré de philosophie ou d'insensibilité dont les avait pourvus la nature, comparé à celui que le sentiment poétique et l'amour, sentiment plus religieux et plus puissant encore, pouvait lui donner à elle-même. Elle laissa donc paraître un peu de curiosité dès que le grand Louis se fut éloigné pour porter ses truites, comme il disait, dans la poêle à frire. Ainsi, dit-elle à la vieille meunière, vous ne vous trouvez pas heureuse, et votre fils lui-même, malgré son air de gaieté, se tourmente quelquefois. Mais, madame, quant à moi, répondit la bonne femme, je me trouverais assez riche et assez contente de mon sort si je voyais mon fils heureux. Défunt, mon pauvre homme, était à son aise. Son commerce allait bien, mais il est mort avant d'avoir pu élever sa famille. Et il m'a fallu mener à bien et établir de mon mieux tous mes enfants. À présent, la part de chacun n'est pas grosse. Le moulin est resté à mon Louis, qu'on appelle le grand Louis, comme on appelait son père le grand Jean, et comme on m'appelle la grand Marie.
Car Dieu aidant, on pousse assez bien dans notre famille, et tous mes enfants étaient de belle taille. Mais c'est là le plus clair de notre bien, le reste est si peu de choses qu'il n'y a pas de quoi se faire de fausses espérances. Mais enfin, pourquoi voudriez-vous être plus riche? Souffrez-vous de la pauvreté? Il me semble que vous êtes bien logé, que votre pain est beau, votre santé excellente. Oui, grâce au bon Dieu, nous avons le nécessaire. Et bien les gens qui valent peut-être mieux que nous n'ont pas tout ce qu'il leur faudrait. Mais voyez-vous, madame, on est heureux ou malheureux, suivant les idées qu'on se fait. Vous touchez la vraie question, dit Marcel, qui remarquait dans la physionomie et dans le langage de la meunière de la finesse naïve et un sens juste. Mais puisque vous appréciez si bien les choses, d'où vient donc que vous vous plaigniez ?
Bon, c'est pas moi qui me plains, c'est mon grand Louis. Ou pour mieux parler, c'est moi qui me plains parce que je le vois mécontent, et c'est lui qui ne se plaint pas, parce qu'il a du courage et craint de me faire de la peine. Mais quand il en a trop lui-même, ça lui échappe, le pauvre enfant. Il ne dit qu'un mot, mais ça me fend le cœur. Il dit comme ça, « Jamais, jamais, ma mère !» Et ce mot veut dire qu'il n'espère plus rien. Mais ensuite, comme il est naturellement porté à la gaieté, oh, comme défunt son pauvre cher père, il a l'air de se faire une raison, et il me dit toutes sortes de contes, soit qu'il veuille me consoler, soit qu'il s'imagine que ce qu'il s'est mis dans la tête finira par arriver.
Mais qu'a-t-il dans la tête? C'est donc de l'ambition?
Oh oui, c'est une grande ambition, c'est une vraie folie. C'est pourtant pas l'amour de l'argent, car il n'est pas avare, tant s'en faut. Dans son partage de famille, il a cédé à ses frères et sœurs tout ce qu'ils ont voulu. Et quand il a gagné quelque peu, il est prêt à le donner au premier qui a besoin de lui. C'est pas la vanité non plus, car il porte toujours ses habits de paysan, quoiqu'il ait reçu de l'éducation et qu'il ait le moyen d'aller aussi bien vêtu qu'un bourgeois. Enfin, ça n'est ni la mauvaise conduite, ni le goût de la dépense, car il se contente de tout et va jamais courir où il n'a pas à faire.
Eh bien, qu'est-ce donc, dit Marcel, dont la douce figure et le ton cordial attiraient insensiblement la confiance de la vieille femme.
Qu'est-ce que vous voulez que ce soit, si c'est pas l'amour?
Dit la meunière avec un sourire mystérieux, et ce je ne sais quoi de fin et de délicat, qui, sur le chapitre du sentiment, établit en un clin d'œil l'abandon et l'intérêt entre les femmes, malgré les différences d'âge et de rang.
Vous avez raison, dit Marcel en se rapprochant de la grand-marie. C'est l'amour qui est le grand trouble fait de la jeunesse.
Et cette femme qu'il aime, elle est donc plus riche que lui?
Oh, c'est pas une femme, mon pauvre Louis a trop d'honneur pour en compter à une femme mariée. Non, c'est une fille, une jeune fille, une jolie fille, ma foi, et une bonne fille, il faut en convenir. Mais elle est riche, riche, et nous avons beau y penser, jamais ses parents ne voudront la donner à un meunier.
Marcel, frappé du rapport qui existait entre le roman du meunier et celui de sa propre vie, éprouva une curiosité mêlée d'émotions.
« Si elle aime votre fils, dit-elle, cette belle et bonne fille, elle finira par l'épouser.
Ben, c'est ce que je me dis quelquefois.
Oh, car elle l'aime, ça j'en suis sûr. Madame, quoi que mon grand Louis ne le soit pas. C'est une fille sage et qui n'irait pas dire à un homme qu'elle veut l'épouser malgré la volonté de ses parents. Et puis elle est bien un peu rieuse, un peu coquette. C'est de son âge, ça n'a que 18 ans.
Son petit air malin, oh, désespère mon pauvre garçon. Aussi pour le consoler, quand je vois qu'il ne mange pas et qu'il fait sa grosse voix avec la Sophie, notre jument, en parlant par respect, je ne peux pas m'empêcher de lui dire ce que j'en pense. Et il me croit un peu, car il voit bien que j'en sais plus long que lui sur le cœur des femmes. Moi, je vois bien que la belle rougit quand elle le rencontre et qu'elle le cherche des yeux quand elle vient se promener par ici. Mais j'ai tort de dire cela à ce garçon, car je l'entretiens dans sa folie, et je ferais bien de lui dire qu'il ne faut pas songer. « Mais pourquoi ?» dit Marcel. « L'amour rend tout possible. Soyez sûre, ma bonne mère, qu'une femme qui aime est plus forte que tous les obstacles. » « Oui, je pensais cela, étant jeune. Je me disais que l'amour d'une femme, c'est comme la rivière qui casse tout quand elle veut passer. » Et qui se moque des barrages et des empêlements. J'étais plus riche que mon pauvre grand-Jean, moi, et pourtant je l'ai épousé. Mais il n'y avait pas la même différence qu'entre nous maintenant et mademoiselle. » Ici, le petit Édouard interrompit la meunière en disant à sa mère, « Tiens, Henri est donc ici ?» Chapitre 6. Un nom sur un arbre. Madame de Blanchemont tressaillit et faillit laisser échapper un cri du fond de son cœur en cherchant des yeux ce qui avait pu motiver l'exclamation de l'enfant. En suivant la direction des regards et des gestes d'Édouard, Marcel remarqua un nom creusé au canif sur l'écorce d'un arbre. L'enfant commençait à savoir lire surtout certains mots qui lui étaient familiers, certains noms qu'on lui avait peut-être fait épeler de préférence. Il avait parfaitement reconnu celui d'Henri inscrit sur le tronc lisse d'un peuplier blanc, et il s'imaginait que son ami venait de le tracer. Entraîné par l'imagination de son fils, Marcel se persuada avec lui pendant quelques instants qu'elle allait voir Henri les morts sortir des bosquets d'aunes et de trembles. Mais il ne lui fallut pas beaucoup réfléchir pour sourire tristement de sa facilité à se faire illusion. Cependant, comme on ne renonce pas volontiers à une espérance, si folle qu'elle soit, elle ne put se défendre de demander à la meunière quelle personne de sa famille ou de son entourage portait le nom d'Henri. « Aucune que je sache, répondit la mère Marie. Je connais point cela. Il y a bien au bourg de Nohant une famille Henri, mais ce sont des gens comme moi qui savent ni écrire sur le papier ni sur les arbres. À moins que le fils qui revient de l'armée. Oh, mais bon, il y a plus de 2 ans qu'il n'est pas venu par ici. Vous ne savez donc pas qui peut avoir écrit ce nom ? Mais je ne savais pas seulement qu'il a quelque chose d'écrit. J'y ai jamais fait attention, et quand je l'aurais vu, je ne sais pas lire. J'avais pourtant le moyen d'être bien éduqué, mais dans mon temps, c'était guère la mode. On faisait une croix sur les actes en guise de signature, et c'était aussi bon devant la loi. Le meunier était revenu avertir que le déjeuner était prêt. En voyant l'attention de Marcel fixée sur ce nom, lui qui savait très bien lire et écrire, mais qui n'avait rien remarqué jusqu'alors, il chercha à expliquer le fait. « Je ne vois que l'homme de l'autre jour qui ait pu s'amuser à cela, dit-il, car il ne vient guère de gens de la ville par ici. » « Et qu'est-ce que c'est que l'homme de l'autre jour ?» demanda Marcel en s'efforçant de prendre un air d'indifférence. « Bon, c'était un monsieur qui nous a pas dit son nom, » répondit-il, et la vieille ajouta, « Nous ne savons pas grand-chose, et pourtant nous savons que la curiosité est malhonnête. Lui est comme moi là-dessus, et au contraire des gens de notre pays qui interrogent à tort et à travers tous les étrangers qu'il rencontre, nous désirons jamais savoir ce qu'on désire que nous sachions. » Ce monsieur-là avait l'air de vouloir garder son nom et ses intentions pour lui seul.
Oh, cependant, il faisait beaucoup de questions. Ce garçon-là, observa le grand Louis. Nous aurions été en droit de lui en faire à notre tour. Je sais pas pourquoi je n'ai pas osé. Il n'avait certainement pas la mine bien méchante, et je ne suis pas très honteux de mon naturel, mais il avait un air tout drôle et qui me faisait de la peine.
Quel air avait-il donc? Demanda Marcel, dont la curiosité et l'intérêt s'éveillaient à chaque mot du meunier.
Je ne saurais vous dire, répondit celui-ci. J'y faisais pas grande attention pendant qu'il était là. Mais quand il a été parti, je me suis mis à y penser. Vous souvenez-vous, ma mère?
Oui, tu me disais, tenez, mère, en voilà un qui est comme moi, il n'a pas tout ce qu'il désire.
Non, je ne disais pas cela, reprit le grand Louis, qui craignait que sa mère ne laissât échapper son secret et ne se doutait pas qu'il lui fût révélé déjà.
Je disais simplement, voilà un particulier qui n'a pas l'air bien content d'être au monde.
Il était donc fort triste, dit Marcel, ému.
Il avait l'air de penser beaucoup. Il est resté au moins 3 heures tout seul assis par terre, là où vous êtes maintenant. Et il regardait couler la rivière, comme s'il eût voulu compter toutes les gouttes d'eau.
J'ai cru qu'il était malade et j'ai été par 2 fois lui offrir d'entrer à la maison pour se rafraîchir.
Et quand j'approchais de lui, il sautait comme un homme qu'on réveille et il prenait un air fâché. Puis tout de suite, il avait un visage très doux et très bon et il me remerciait. Il a fini par accepter un morceau de pain et un verre d'eau, mais pas davantage.
« Mais c'est Henri !»
s'écria le petit Édouard, qui, pendu à la robe de sa mère, écoutait avec attention.
« Tu sais bien, maman, qu'Henri boit jamais de vin. »
Madame de Blanchemont rougit, pâlit, rougit encore, et d'une voix qu'elle s'efforçait en vain d'assurer, elle demanda ce que cet étranger était venu faire dans le pays.
« J'en sais rien !»
répondit le farinier, qui, fixant son regard pénétrant sur le beau visage ému de la jeune dame, se dit en lui-même « Ah, en voilà encore une qui a comme moi son idée dans la tête !» Et voulant satisfaire autant que possible la curiosité de Marcel sur l'étranger et la sienne propre sur les sentiments de son hôtesse, il entra complaisamment dans tous les détails qu'elle attendait avec anxiété. L'étranger était arrivé à pied il y avait environ 15 jours. Il avait erré 2 jours dans la vallée noire et on ne l'avait plus revu. On ne savait pas où il avait passé la nuit. Le meunier présumait que c'était à la Belle Étoile. Il ne paraissait pas très nanti d'argent. Il avait pourtant offert de payer son maigre repas au moulin, mais sur le refus du meunier, il avait remercié avec la simplicité d'un homme qui ne rougit pas d'accepter l'hospitalité d'un homme de même condition que lui. Il était vêtu comme un ouvrier propre ou comme un bourgeois de campagne, avec une blouse et un chapeau de paille. Il avait un bien petit havresac sur le dos et de temps en temps il le mettait sur ses genoux, en tirait du papier et avait l'air d'écrire comme s'il eût pris des notes. Il avait été à Blanchemont, à ce qu'il disait, mais personne ne l'y avait vu. Cependant, il parlait de la ferme et du vieux château comme un homme qui a tout examiné. En mangeant son pain et buvant son eau, il avait fait beaucoup de questions aux meuniers sur l'étendue des terres, sur leurs rapports, sur les hypothèques dont elles étaient grevées, sur la réputation et le caractère du fermier, sur les dépenses de feu M. de Blanchemont, sur ses autres terres, etc. Enfin, on avait fini par le prendre au moulin pour un homme d'affaires envoyé par quelque acheteur pour avoir des informations et reconnaître la qualité du terrain.
car il paraît que la terre de Blanchemont va être mise en vente si elle ne l'est pas déjà, ajouta le meunier, qui n'était pas tout à fait aussi dégagé de la fièvre de curiosité particulière aux paysans de l'endroit que le prétendait sa mère. Marcel, qu'une bien autre sollicitude agitait, entendit à peine la réflexion qui terminait ce récit. « Mais quel âge pouvait avoir cet étranger ?» demanda-t-elle.
« Moi aussi, sa figure m'en parle, » dit la meunière. « Il peut avoir l'âge de Louis, de 24 à 25 ans environ. »
« Et comment est-il de figure ? Est-il brun, de moyenne taille ?»«
Il est pas grand, il est pas blond, » dit le meunier. « Il n'a pas une vilaine figure, mais il est pâle comme un homme qui ne jouit pas d'une grosse santé. »«
Ce pourrait être Henri, » pensa Marcel, bien que ce portrait un peu rudement esquissé ne répondît pas assez à l'idéal qu'elle portait dans son cœur.
« C'est un homme qui sera peut-être pas très coulant en affaires, » reprit le grand Louis. « Car pour obliger M. Bricolin, le fermier de Blanchemont, qui veut se porter acquéreur et pour dégoûter un peu celui-là, je m'amusais à déprécier la propriété, mais ce garçon ne se laissait pas endormir. « La terre vaut ceci et cela, » disait-il. Et il comptait le revenu, les charges, les frais sur le bout de ses doigts, comme un quelqu'un qui s'y connaît et qui n'a pas besoin de longues paroles, le verre en main, à la mode du pays, pour voir le fort et le faible d'une affaire.
Alors, je suis folle, pensa madame de Blanchemont. Cet étranger est le premier venu, quelque régisseur, chargé de placer des fonds dans le pays, et son air triste, sa rêverie au bord de l'eau, c'est tout simplement le résultat de la chaleur et de la fatigue. Quant à ce nom d'Henri, c'est un hasard qu'il le porte, si tant est que ce soit lui qui est écrit là. Jamais Henri ne s'est occupé d'affaires, jamais il n'a su la valeur d'aucune propriété, la source et le cours d'aucune richesse de ce monde. Non, non, ce n'est pas lui. D'ailleurs, n'était-il pas à Paris, il y a 15 jours? Il y en a 3 que je l'ai vu, et il ne m'a pas dit qu'il se fût absenté récemment. Que serait-il venu faire dans la vallée noire? Savait-il seulement que la terre de Blanchemont, dont je ne me souviens pas de lui avoir jamais parlé, fut située dans cette province? Ayant détaché, non sans quelque effort, ses regards de l'inscription mystérieuse qui avait tant fait travailler sa pensée, elle suivit ses hôtes à la maison et trouva un excellent déjeuner servi sur une table massive recouverte d'une nappe bien blanche. La fromentée, oh le mets favori du pays, pâte compacte de blé crevé dans l'eau et habillée dans le lait, le gâteau de poire à la crème poivrée, les truites de la Vauvre, les poulets maigres et tendres, mis tout palpitants sur le grill, la salade à l'huile de noix bouillante, le fromage de chèvre et les fruits un peu verts, tout cela parut exquis au petit Édouard. On avait mis le couvert des deux domestiques et des deux hôtes à la même table que madame de Blanchemont, et la meunière s'étonnait beaucoup du refus de la Pierre et de Suzette de s'asseoir à côté de leur maîtresse. Mais Marcel exigea qu'ils se conformassent à l'usage de la campagne, et elle commença gaiement cette vie d'égalité dont l'idée lui souriait. Les manières du meunier étaient brusques, ouvertes, mais jamais grossières. Celles de sa mère étaient un peu plus obséquieuses, et malgré les remontrances de grand Louis, à qui le bon sens tenait lieu de savoir-vivre, elle persécutait bien un peu ses convives pour les forcer à manger plus que leur appétit ne le comportait. Mais il y avait tant de sincérité dans son empressement que Marcel ne songea point à la trouver importune.
Cette vieille avait du cœur et de l'intelligence, et son fils tenait d'elle à tous égards. Il avait de plus qu'elle un bon fond d'éducation élémentaire. Il avait suivi l'école primaire. Il savait lire et comprendre beaucoup plus de choses qu'il n'était pressé de le faire voir. En causant avec lui, Marcel trouva plus d'idées justes, de notions saines et de goûts naturels qu'elle n'en eût attendu la veille de la part du grand farinier à sa rencontre dans l'auberge. Et tout cela avait d'autant plus de prix que, loin d'en faire montre et d'en tirer vanité, il affectait des manières de paysan plus rudes que celles dont ignorait pas l'usage. On eût dit qu'il craignait par-dessus tout de passer pour un bel esprit de village et qu'il avait un profond mépris pour ceux qui renient leur bonne race et leur honnête condition en prenant des airs ridicules. Il parlait avec assez de pureté, à l'ordinaire, sans toutefois dédaigner les locutions naïves et pittoresques du terroir. Quand il s'oubliait, c'est alors qu'il parlait tout à fait bien et qu'on ne sentait plus du tout le meunier. Mais bientôt, comme s'il eût été honteux de s'écarter de sa sphère, il revenait à ses plaisanteries sans fiel et à sa familiarité sans insolence. Cependant, Marcel fut un peu embarrassé lorsque le patachon étant revenu se mettre à sa disposition vers 7 heures du matin, elle voulut, tout en prenant congé de ses hôtes, payer la dépense qu'elle avait faite chez eux. Ils se refusèrent à rien recevoir. « Non, ma chère dame, non, lui dit le meunier, sans emphase, mais d'un ton ferme. Nous ne sommes pas aubergistes. Nous pourrions l'être, ce ne serait pas au-dessous de nous. Mais enfin, nous ne le sommes pas, nous ne prendrons rien. » « Mais comment, dit Marcel, je vous aurais causé tout ce dérangement et toute cette dépense sans que vous me permettiez de vous indemniser ? Car je sais que votre mère m'a donné sa chambre, qu'elle a pris votre lit et que vous avez couché dans le foin de votre grenier. Vous vous êtes dérangé de vos occupations ce matin pour pêcher. Votre mère a chauffé le four. Elle a pris de la peine et nous avons fait une certaine consommation chez vous. Oh, ma mère a très bien dormi et moi encore mieux, répondit le grand Louis. Les truites de la Vauvre ne me coûtent rien. C'est aujourd'hui dimanche, et ces jours-là, je pêche toute la matinée. Pour un peu de lait, de pain et de farine, qui ont servi à votre déjeuner avec quelques mauvaises volailles, nous ne serons pas ruinés. Ainsi, le service n'est pas grand, et vous pouvez l'accepter de nous, sans regret. Nous ne vous le reprocherons pas, d'autant plus que nous ne vous reverrons. Peut-être jamais. Oh, j'espère que si, répondit Marcel, car je compte rester quelques jours au moins à Blanchemont. Je veux revenir remercier votre mère et vous d'une hospitalité si cordiale, et que je suis pourtant un peu honteuse d'accepter ainsi. Et pourquoi avoir honte de recevoir un petit service des honnêtes gens? Quand on est content de leur bon cœur, on est quitte envers eux. Je sais bien que dans les grandes villes, tout se paie, jusqu'à un verre d'eau. C'est une vilaine coutume, et dans nos campagnes, on serait bien malheureux si on ne s'obligeait pas les uns les autres. Allons, allons, n'en parlons plus. Mais vous ne voulez donc pas que je revienne vous demander à déjeuner? Vous me forcez à m'abstenir de ce plaisir, ou à devenir indiscrète? Oh, cela, c'est autre chose. Nous n'avons fait que notre devoir en vous donnant, comme vous dites, l'hospitalité. Car enfin, nous sommes élevés à regarder cela comme un devoir. Et bien que la bonne coutume s'en aille un peu, bien qu'aujourd'hui les pauvres gens, sans demander qu'on leur paie ces petits services, acceptent presque tout ce qu'on leur donne en partant, nous ne sommes pas d'avis, ma mère et moi, de changer les vieux usages quand ils sont bons. S'il y avait eu aux environs une auberge passable, je vous y aurais conduite hier soir, pendant que vous y seriez mieux que chez nous, et voyant bien que vous aviez le moyen de payer votre gîte. Mais il n'y en a point, ni bonne ni mauvaise. Et à moins d'être un homme sans cœur, je ne pouvais pas vous laisser passer la nuit dehors. Croyez-vous que je vous aurais invité à venir chez nous si j'avais eu l'intention de vous faire payer? Non, puisque, comme je vous le dis, je ne suis pas aubergiste. Voyez, nous n'avons ni où ni gelée à notre porte.
J'aurais dû remarquer cela en entrant, dit Marcel, et mettre plus de discrétion dans ma conduite ici.
Mais que répondez-vous à ma question? Vous ne voulez donc pas que je revienne?
Cela, c'est autre chose. Je vous invite à revenir tant que vous voudrez. Vous trouvez l'endroit joli? Votre petit aime nos galettes? Ça m'encourage à vous dire que toutes les fois que vous reviendrez, vous nous ferez plaisir.
Et vous me forcerez, comme aujourd'hui, à accepter tout gratis?
Mais puisque je vous y invite... Oh, je me suis donc mal expliqué.
Et vous ne voyez pas que, selon moi, ce serait abuser de votre bon cœur?
Non, je ne vois pas cela. Quand on est invité, on use de son droit en acceptant.
Allons, dit Madame de Blanchemont, vous avez la vraie politesse, je le comprends. Mais dans notre monde, on ne l'a pas. Vous m'enseignez que la discrétion, cette qualité si vantée et malheureusement si nécessaire parmi nous, est devenue telle depuis que la bienveillance s'est changée en compliment, et depuis que le savoir-vivre n'est plus l'expression de la sincère obligeance.
« Vous parlez bien, » dit le meunier dont la figure s'éclaira d'un rayon de vive intelligence. « Et je suis bien aise d'avoir une occasion de vous obliger, foi d'homme. »
« En ce cas, vous me permettrez de vous recevoir à mon tour, quand vous viendrez à Blanchemont. »«
Ah, cela, pardon, mais je n'irai pas chez vous. » J'irai chez vos fermiers, comme j'y vais souvent, porter du blé. Et je vous saluerai avec plaisir, voilà tout.
Ah ah, monsieur Louis, vous ne voulez pas déjeuner chez moi?
Oui et non. Je mange souvent chez vos fermiers. Mais si vous êtes là, ça sera changé. Vous êtes une dame noble, suffit.
Ah, expliquez-vous, je ne comprends pas.
Voyons, est-ce que vous n'avez pas conservé les usages des anciens seigneurs? N'enverriez-vous pas votre meunier manger à la cuisine avec vos valets, et sans vous, bien sûr? Moi, ça ne me fâcherait pas de manger avec eux, puisque je l'ai bien fait aujourd'hui chez moi, mais ça me paraîtrait drôle de vous avoir fait asseoir chez moi. Et de ne pouvoir pas m'asseoir chez vous, au coin du feu, et votre chaise à côté de la mienne. Voilà, je suis un peu fier. Oh, je vous blâmerai pas, chacun suit ses idées et ses usages. C'est pourquoi j'ai pas besoin d'aller me soumettre à ceux des autres, quand j'y suis pas forcé.
Marcel fut très frappé du bon sens et de la sincère hardiesse du meunier. Elle sentit qu'il lui donnait une excellente leçon, et elle se réjouit d'avoir adopté des projets qui lui permettaient de la recevoir sans rougir. « Monsieur Louis, lui dit-elle, vous vous trompez sur mon compte. Ce n'est pas ma faute si j'appartiens à la noblesse, mais il se trouve que par bonheur ou par hasard, je ne veux plus me conformer à ses usages. » Si vous venez chez moi, je n'oublierai pas que vous m'avez reçu comme votre égal, que vous m'avez servi comme votre prochain, et pour vous prouver que je ne suis pas ingrate, je mettrai, s'il le faut, votre couvert et celui de votre mère moi-même à ma table, comme vous avez mis le mien à la vôtre.
Vrai? Vous feriez cela? Dit le meunier en regardant Marcel avec un mélange de surprise
de doute respectueux et de sympathie familière. Oh, ce cas, j'irai. Ou plutôt, non, je n'irai pas, car je vois bien que vous êtes une honnête personne. Je ne comprends pas non plus à quel propos cette réflexion. Ah, madame, oh, si vous ne comprenez pas, je suis peu en peine de m'expliquer mieux.
Allons, Louis, je crois que t'es fou, dit la vieille Marie, qui tricotait d'un air grave en écoutant toute cette conversation. Je sais pas où tu prends tout ce que tu dis à notre dame. Excusez, madame, ce garçon est un sans souci, qui a toujours dit à tout le monde, petit et grand, tout ce qui lui passait par la tête. Il faut pas que cela vous fâche. Au fond, il a bon cœur, croyez-moi, et je vois bien sa mine qui se jetterait dans le feu pour vous à cette heure.
Dans le feu, pas sûr, dit le meunier en riant, mais dans l'eau, c'est mon élément. Vous voyez bien, mère, que madame est une femme d'esprit et qu'on peut lui dire tout ce qu'on pense. Je le dis bien à monsieur Bricolin, son fermier, qui est certainement plus à craindre qu'elle ici. Mais dites donc, maître Louis parlait, je suis très disposé à m'instruire. Pourquoi, parce que je suis une honnête personne, ne viendriez-vous pas chez moi? Parce que nous aurions tort de nous familiariser avec vous et que vous auriez tort de nous traiter en égaux. Ça vous attirerait les désagréments. Vos pareils vous blâmeraient. Ils diraient que vous oubliez votre rang. Et je sais que cela passe pour très mal à leurs yeux. Et puis la bonté que vous auriez avec nous. Il faudrait donc l'avoir avec tous les autres, ou cela ferait les jaloux et nous attirerait les ennemis. Il faut que chacun suive sa route. On dit que le monde est grandement changé depuis 50 ans. Moi, je dis qu'il n'y a rien de changé que nos idées à nous autres. Nous ne voulons plus nous soumettre. Et ma mère que voilà, et que j'aime pourtant bien, la brave femme, voit autrement que moi sur bien les choses. Mais les idées des riches et des nobles sont ce qu'elles ont toujours été. Si vous ne les avez pas, ces idées-là, si vous ne méprisez pas un peu les pauvres gens, si vous leur faites autant d'honneur qu'à vos pareils, ce sera peut-être tant pis pour vous. J'ai vu souvent votre mari défunt, monsieur de Blanchemont, que quelques-uns appelaient encore le seigneur de Blanchemont. Il venait tous les ans au pays, et restait 2 ou 3 jours. Il nous tutoyait. Si ça avait été par amitié, passe. Mais c'était par mépris. Il fallait lui parler debout et toujours chapeau bas. Moi, cela ne m'allait guère. Un jour, il me rencontra dans le chemin et me commanda de tenir son cheval. Je fis la sourde oreille. Il m'appela Butor. Oh, je regardais de travers. S'il n'avait pas été si faible, si mince, je aurais dit 2 mots. Mais ça aurait été lâche de ma part et je passais mon chemin en chantant. Si cet homme-là était vivant et qu'il vous entendit me parler comme vous faites, il ne pourrait pas être content. Tenez, rien qu'à la figure de vos domestiques, j'ai bien vu aujourd'hui qu'ils vous trouvaient trop sans façon avec nous autres et même avec eux. Allons, madame, c'est à vous de revenir vous promener au moulin et à nous qui vous aimons de ne pas aller nous attabler au château. Pour le mot que vous venez de dire, je vous pardonne tout le reste et je me promets de vous convaincre, dit Marcel en lui tendant la main, avec une expression de visage dont la noble chasteté commandait le respect, en même temps que ses manières entraînaient l'affection. Le meunier rougit en recevant cette main délicate dans sa main énorme, et pour la première fois il devint timide devant Marcel, comme un enfant audacieux et bon dont l'orgueil est tout à coup vaincu par l'émotion. Je vais monter sur Sophie et vous servir de guide jusqu'à Blanchemont, dit-il après un instant de silence embarrassé. Ce patachon de malheur vous égarait encore, quoi qu'il n'y ait pas loin. Eh bien, j'accepte, dit Marcel. Direz-vous encore que je suis fier ?
Je dirai, s'écria le grand Louis en sortant avec précipitation, que si toutes les femmes riches étaient comme vous.
On n'entendit pas la fin de sa phrase, et sa mère se chargea de la terminer.
Il pense, dit-elle, que si la fille qu'il aime était aussi peu fière que vous, il n'aurait pas tant de tourments.
Et ne pourrais-je pas lui être utile, dit Marcel, en songeant avec plaisir qu'elle était riche et sainement prodigue.
Peut-être qu'en disant du bien de lui devant la demoiselle, car vous la connaîtrez bien vite. Elle est trop riche.
Nous reparlerons de cela, dit Marcel, en voyant rentrer ses domestiques qui venaient chercher ses paquets.
Je reviendrai tout exprès bientôt, demain, peut-être.
Le patachon, rouge et rageur, avait passé la nuit sous un arbre, n'ayant pu découvrir à travers l'obscurité une maison dans la vallée noire. À la pointe du jour, il avait aperçu le moulin, et il y avait été hébergé et restauré, lui et son cheval. Dans sa mauvaise humeur, il était fort disposé à répondre avec insolence aux reproches qu'il s'attendait à recevoir. Mais d'une part, Marcel ne lui en fit aucun, et de l'autre, le farinier l'accabla de tant de moqueries qu'il ne put avoir le dernier avec lui et remonta tout penaud sur son brancard. Le petit Édouard supplia sa mère de le laisser aller à cheval devant le meunier qui le prit dans ses bras avec amour, en disant tout bas à la vieille Marie
si nous en avions un comme ça pour nous réjouir à la maison, hein, mère ? Mais ça sera jamais. »
Et la mère comprit qu'il ne voulait se marier qu'avec celle à laquelle il ne pouvait raisonnablement prétendre.